des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Mario Dumont.
Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
Mario Dumont.
Les affaires publiques n'ont plus ses fèvres en lui. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. On se retrouve en ce beau jeudi. On va vous raconter comment cette journée d'actualité s'est déroulée. Vincent, bonjour.
Salut Mario. Tu dis bon jeudi, c'est la première journée grise, on dirait depuis un mois.
C'est gris, c'est bon, gris. C'est, okay. On est de bonne humeur
positif,
quand même. Positif, des bonnes nouvelles sur le front de la pandémie. Un peu plus de liberté encore.
Ouais, on est sur le point d'annoncer que les bars et les restaurants du Québec pourront ouvrir à pleine capacité à partir du 1er novembre. Et les tables, 1 mètre seulement. Alors, on pourra tous se rapprocher un peu plus. Et les heures d'ouverture, on pourra revenir aux heures normales.
Ouais, depuis l'imposition du passeport vaccinal, eux demandaient ça en disant, là, on a des gens pleinement vaccinés, on peut-tu remplir nos établissements?
Ouais, là, par contre, où c'est plein, bon, certains ont hâte de danser, de chanter, ben là, ça, c'est non. Alors, karaoké, les pistes de danse, ça faudra encore attendre. Porter le masque encore dans nos déplacements, passeport vaccinal aussi, mais on attendra les détails sous peu.
Je pense que ce karaoké de Québec a causé
un dommage
irréparable à l'image des karaokés dans l'esprit des gens de la santé publique. Là.
Ils sont frileux peut-être avec les histoires de karaoké, c'est dommage pour eux autres par contre. Ça viendra.
Alors, on va tout de suite aller rejoindre Julie Marcoux et l'équipe de 100% Nouvelles.
15h30, c'est le temps d'aller retrouver Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario.
Bonjour.
L'offre du gouvernement pour les éducateurs et éducatrices en CPE, ça a été accueilli tièdement là, par le syndicat. Je ne sais pas si tu as eu la chance d'entendre Mme Grenon, mais avant de parler de la réaction du syndicat, la façon de faire du gouvernement de déposer une offre alors que les négos se poursuivent, est-ce que tu as déjà vu ça, Mario?
Mais en fait, c'est pas vraiment une offre. C'est comme de décréter une augmentation de salaire. D'abord, c'est un peu... Le gouvernement fait d'un peu d'une pierre deux coups, là. Hein? Dit, ben moi, là, j'ai besoin de recruter. La négociation n'est pas finie. La négociation est difficile.
C'est vrai
pourrait
parce
être
que c'est
longue.
En vigueur dès maintenant.
Ah, c'est en vigueur aujourd'hui. C'est en vigueur. On commence à compter sa paye à partir d'aujourd'hui, là. Donc, on dit du côté du gouvernement, ben là, nous, on a de la misère à recruter des gens. Il y en a qui sont tentés de s'en aller. Fait qu'on veut pas attendre. Pour avoir des réponses à ces augmentations de salaire, on veut pas attendre la fin d'une négociation qui pourrait être longue et pénible si le syndicat est très exigeant et tout ça. Donc, on dit, nous, on reconnaît qu'ils sont pas assez payés. On n'a pas de problème avec ça. Et donc, on donne tout de suite un 12% qui devient un 17% pour celles qui vont travailler 40 heures par semaine. Parce que ça aussi, on agit là-dessus. On veut plus d'offres de services. Donc, oui, tu peux recruter plus d'éducatrices. Mais si tu convaincs celles qui sont présentement, il y en a beaucoup, semble-t-il, qu'il y en a une forte majorité qui sont à 4 jours semaine, 32 heures semaine. Si tu les convaincs de travailler à temps plein, en tout cas, un vrai temps plein, la 40 heures semaine, ben, tu vas, à ce moment-là, augmenter, tu vas augmenter la disponibilité, l'offre de services.
Mais en faisant ça, ils se sont battus en même temps pour ce 4 jours semaine. Donc, Mme Grenon parlait d'un cadeau empoisonné aujourd'hui?
Ça, c'est une vieille histoire des relations de travail au Québec. Je pense que c'est l'École bleue de Montréal qui avait démarré ce party-là. Travailler 4 jours, peut être payé pour 5. Ça, c'est sûr. Ouais. Les gens se sont mis ça dans la tête. Travailler 4 jours, peut être payé pour 5. Travailler 4 jours, peut être payé pour 5.
Ce cas-ci, ils sont payés 32 heures semaine. Là. Parfois,
ouais,
36,
ils sont payés 32 heures, mais ils veulent avoir des augmentations importantes qui comblent la cinquième journée. Là. Mm-hmm. Si t'es payé 20% de plus chaque jour, ça comble un peu pour la journée. Donc, le gouvernement, lui, veut donner plus de services, donc veut les pousser. Donc, il y a une augmentation pour tout le monde de 12%. Il y a un 5% supplémentaire pour celles qui voudront travailler ou qui travaillent déjà 40 heures par semaine. Bon, donc je disais... Le gouvernement agit immédiatement dans son esprit de recruter et de garder le personnel qu'il y a, mais on s'entend là, que ça intervient aussi dans la négociation. Prends l'exemple des éducatrices qui étaient en grève aujourd'hui et demain. Bon, aujourd'hui, il était trop tard. La conférence de presse est arrivée en cours de journée. Mais pour demain, si on maintient la grève, à mon avis, les parents vont rechigner, là. Les parents vont dire, ben là, voyons, es-tu vraiment en grève? Le lendemain que le gouvernement...
Mais en même temps, tu le dis... Dans le fond, on bonifie pas les conditions de travail, la convention collective, c'est une augmentation de salaire que le gouvernement offre. C'est habile de la ministre, mais c'est pas une façon de provoquer aussi, parce que on entendait Mathieu Lacombe dire, nous, on n'attendra pas la fin des négos, là, on veut régler les problèmes tout de suite. Puis en même temps, Mme Grenon dit, c'est pas comme ça qu'on négocie, on en a un canal de négociation, ça s'appelle la table des négociations. Pourquoi le gouvernement s'y est pas pris de cette façon-là?
Je comprends, mais là, à la table des négociations, le syndicat peut dire, bon, ben, il y a un 12% là, qu'on l'a, il est dans la poche, là, on négocie. Si tu demandais 26, ben là, t'es rendu à 14. Tu comprends, t'as un bout que c'est fait. Là. On te l'a déjà accordé. Tu peux plus te battre pour ce qu'on t'a déjà accordé. C'est plus au niveau de l'opinion publique que le gouvernement vient jouer. Je pense qu'il y a beaucoup de citoyens qui vont se dire, ben là, tu fais la grève. D'abord, des 17% d'augmentation de salaire, pas grand monde que ça. Là. C'est quand même assez rare, assez exceptionnel. Bon, ça veut dire que le gouvernement reconnaît qu'il y a un rattrapage à faire. Mais tu sais, si tu fais la grève le lendemain matin où on t'a donné 17% d'augmentation, ça se peut que les gens te regardent de travers. Donc, on comprend que le gouvernement joue la politique aussi là-dessus et mène certaines pressions sur le syndicat. Donc, c'est une... Mais on n'a pas vu ça souvent. On se comprend là, que c'est une action ou une conférence de presse ce matin avec un caractère assez exceptionnel. Donc, décréter ou annoncer unilatéralement, ben voici, moi comme gouvernement, je considère qu'il mérite plus. Voici l'augmentation de salaire que je donne, puis je la donne effective aujourd'hui même. C'est du rarement vu. Donc, à suivre les négociations. Par ailleurs, la ministre Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, est formelle. Là. Ça ne met pas fin. C'est pas une loi spéciale par laquelle le gouvernement décrète les conditions de travail et donc met fin aux négociations. Elle reconnaît que pour arriver à une entente, il faut continuer et qu'il faut continuer les négociations.
Le Parti Mouvement Montréal, Mario, c'est la troisième voie qui s'est ajoutée récemment avec la fusion de deux candidats, Balarama Holness, qui a reçu un courriel. C'est très sérieux, là, comme menace de mort. Il y a des propos racistes à profusion, alors que le courriel fait 3-4 lignes. Il a décidé de porter plainte à la police.
Mais bien fait.
Mario, qu'est-ce que ça va prendre pour que ça arrête?
Ben, probablement que ça va prendre un certain nombre de condamnations, là. Faire la démonstration devant les tribunaux que c'est pas accepté, que ça a des conséquences pour ceux qui l'ont fait, pour que d'autres réfléchissent. Mais, on se comprend. C'est totalement inacceptable, l'ensemble des propos, que ce soit les allusions racistes ou que ce soit encore les menaces elles-mêmes. C'est totalement inacceptable. Et je pense qu'il a fait la bonne chose de remettre ça aux autorités, tout simplement. Mm-hmm.
Ça a été dénoncé d'ailleurs par M. Coderre et Mme
Plante. Tout le monde a été dénoncé de toutes parts aujourd'hui.
Parce que s'il y a autant d'élus ou d'anciens élus qui ont décidé de ne pas se représenter, c'est ça, c'est la genèse, c'est toute cette menace, ce harcèlement sur les réseaux sociaux. Dans ce cas-ci, c'est via un courriel, mais néanmoins... C'est la pointe de l'iceberg. Ça prendrait, comme tu dis, des condamnations, des gens qui payent pour ça. Mais en même temps, est-ce que les policiers sont actifs dans ces dossiers-là?
C'est une bonne question. Cette semaine, je recevais à mon émission un avocat qui, lui, fait ce travail-là pour le monde municipal. Donc, débusquer. D'abord, la première étape, il faut bien le dire, une grande proportion des menaces du genre ou des attaques ou des calomnies sont faites par des gens qui sont derrière un faux profil. Donc, le dessin, c'est pas leur photo. Le dessin, c'est n'importe quoi avec un nom, nom d'animal, puis quelques chiffres, puis des chiffres en lettres romaines, n'importe quoi, en caractère romain. Donc, c'est vraiment ça, du classique. Donc, lui, il faut qu'il retrouve, il y a tout un exercice pour retrouver c'est qui la personne. Donc, faut que t'ailles au fournisseur Internet via l'adresse IP. Mais faut d'abord que tu collabores avec le réseau social là, qui va te donner l'adresse IP. Puis avec l'adresse IP, tu vas chez le fournisseur Internet. Ça se fait, mais c'est toute une opération de trouver la personne qui est derrière. Là, donc, on comprend l'avocat, je sais pas c'est quoi son tarif horaire, mais s'il travaille à 100-200 $ des municipalités, des élus municipaux avec les fonds de la municipalité décident de se payer ça parce que on veut mettre fin à ça, mais c'est pas si simple comme opération. Mais c'est peut-être ça que ça va prendre, là, que des gens se rendent compte, un, qu'on peut pas dire n'importe quoi, et que même si on est caché derrière un pseudonyme, derrière une photo de lézard, là, puis un faux nom, mais on peut pas calomnier, on peut pas attaquer, on peut pas faire des menaces de mort.
Est-ce que tu as un choix, Mario?
Ah, vraiment. Mais moi, j'ai un peu. C'est peut-être une erreur. Moi, mettons, dans la dernière année, depuis le début de la pandémie, j'ai jamais rien rapporté à la police. Jamais rien. Il y en a plusieurs qui auraient pu être rapportés à la police. Je l'ai jamais fait. Je les ignore. J'ai pas vraiment peur de ça. Mais on vit avec ça tout le temps. C'est bien certain, là.
Comme personnalité connue. Monsieur Codin, autre candidat à la mairie, qui a dit qu'il était en faveur de la vaccination obligatoire chez les employés municipaux, veut s'inspirer du maire de Toronto. Courageux, ce qu'il a dit?
Oui. Si tout le monde fait
parce
ça...
C'est tous les employés municipaux, c'est tous les cols bleus, tous ceux qui travaillent dans les tours à bureau ou à la maison. Pas rien, là, les employés municipaux de la ville de Montréal.
Mais Julie, aux États-Unis, regarde le nombre de grandes entreprises. Hey. Comment on sort une entreprise bien connue? Walmart. C'est vaccination obligatoire. Mm-hmm. C'est pour ça que la décision qu'a prise hier le ministre Dubé, on comprend que ça parle de la fragilité de notre système de santé. Mais à tous ceux qui disent que c'était exagéré, parce que bon, je pense qu'il y en a qui comprennent la décision d'un point de vue, on aurait fait péter le système de santé, mais ceux qui défendent le principe que c'était inacceptable, voyons donc, dans le réseau de la santé, rendre la vaccination obligatoire, mais voyons donc. Aux États-Unis, là, Disney a rendu la vaccination obligatoire. Toute personne qui travaille pour Disney ou pour un fournisseur de services chez Disney ou pour un plateau de tournage de Disney, c'est vaccination obligatoire. Idem chez Netflix, idem pour les compagnies aériennes, Walmart, nommez-les. Donc, est-ce que c'était déraisonnable pour un réseau de santé de le demander? Vraiment pas. Et dans le cas du maire Coder, c'est un peu la même chose. Même chose pour les fonctionnaires fédéraux. Donc, c'est pour ça que je dis, on pourrait arriver dans quelque chose de bizarre, où les fonctionnaires fédéraux sont tous vaccinés, les fonctionnaires municipaux sont tous vaccinés, mais dans certains blocs opératoires ou CHSLD, les gens sont pas tous vaccinés, ça deviendrait franchement loufoque, là.
Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi.
Au revoir. Alors, Vincent, dans nos autres nouvelles, bilan des cas, ben là, ça s'améliore plus vraiment. La semaine passée, on se demandait, on sait plus trop, on est-tu rendu sur un plateau? Là, on est au mieux sur un plateau, sinon que ça repart presque à la hausse.
Ouais, je me souviens de ta grande prudence la semaine dernière, alors que bon, je voyais comme plusieurs les chiffres baisser, qu'on était bien content de voir ça. C'est un plateau effectivement. Là, on est en légère hausse par rapport à la semaine dernière. On avait 624 la semaine dernière, on est à 644 présentement. 7 décès stables dans les hospitalisations, une personne de plus aux soins intensifs. Donc c'est pas excellent. Surtout que, juste à côté, en Ontario, ils sont à 417. Hier, ils étaient même en bas de 400. C'est la quatrième journée en bas du 500.
Au prorata de la population, c'est moins que la moitié du Québec. Là.
Oui, absolument. Et on avait des journées où l'Ontario était beaucoup, beaucoup au-dessus du Québec là, il n'y a pas si longtemps. Mais là, c'est l'inverse, malheureusement. Par contre, on sait qu'on bénéficie quand même d'une baisse en général depuis quelque temps là. Et l'INES aujourd'hui publiait ses prévisions pour les prochaines semaines au niveau des hospitalisations. Donc, on confirmait que de semaine en semaine, on était encore en baisse de 6% durant la dernière période. Donc, les données du 2 au 8 octobre, on comprend que là, la semaine prochaine, les données seront plutôt stables. C'est la troisième baisse en 3 semaines. Donc, ça, on voyait que oui, il y avait bel et bien une baisse. De sorte là, on voit le résultat dans les hôpitaux avec une stabilisation. De sorte que même dans le Grand Montréal, où on a 70% des hospitalisations, on dit qu'il y aura des baisses dans les 2 à 3 prochaines semaines. Alors, pas d'inquiétude dans le réseau de la santé pour l'instant. C'est une baisse qui est attendue.
Puisque tu parles d'hospitalisation, ce matin à LCN, je recevais le docteur Joseph Dayen, qui est un des intensivistes à l'unité des soins intensifs, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, l'unité des soins intensifs de la Cité de la Santé à Laval. Et je lui demandais le portrait, parce que j'ai fait une entrevue avec lui environ 3 semaines. Mais en fait, un portrait, il y avait des gens très jeunes, des gens dans la trentaine, des gens dans la quarantaine à la Cité de la Santé. C'était tout de suite après qu'un monsieur soit décédé là, dans l'urgence de la COVID qui était allé 3 dernières minutes. Et il me disait, oui, il y a un peu moins de monde aux soins intensifs, mais il dit, trois des personnes dont je vous ai parlé, il y a plus de trois semaines, sont encore là, sont jamais sortis du coma, sont toujours intubés, sont dans la même position, identique, dans le coma toujours, toujours
intubés. Trois semaines plus tard,
toujours intubés.
On sait à quel point chaque jour est...
Et c'est tous des gens en bas de 50 ans, là, des gens en bas de 50 ans. Donc, dans certains cas, qu'on a dépassé plus d'un mois à être intubé, à prendre un lit aux soins intensifs, être intubé dans le coma. J'ai des gens qui vont sortir maganés.
Ça magane un corps. D'ailleurs, vous avez peut-être vu cette histoire-là de cette jeune femme de 21 ans. Ça fait quand même quelques jours qu'on surveillait ce dossier-là. Une femme de 21 ans, donc très jeune, qui contacte la COVID et qui se retrouve hospitalisée, gravement malade. Et ce qui était noté dans son cas, c'est que c'était une militante là, anti-vaccin.
Très active.
Très active, effectivement, sur les différentes plateformes anti-vaccin. Ne croyait pas que c'était un véritable virus. Carrément été alimentée par de la désinformation. Information, c'est sa mère d'ailleurs qui le disait là, sur Instagram, Facebook et même TikTok. Toutes sortes de faussetés qui l'ont amené à croire que ce n'était pas vraiment dangereux. Mais Mélodie Trépanier-Léger, qui vient de Salaberry de Valleyfield, a été plongée dans le coma, on sait, pendant elle, un peu plus de deux semaines à l'hôpital Royal Victoria. Elle s'en sort, elle est sur la pente ascendante maintenant. Elle a publié hier un message sur les réseaux sociaux disant « J'y étais, j'ai survécu à l'enfer. Mon cœur a lâché trois fois. Je me souviens pas de tout, mais je me souviens encore des choses atroces que j'ai vues lorsque j'étais sur mon lit de mort. J'ai eu peur. J'ai eu peur de ce qui n'existait même pas. Lors de mon coma, j'ai vu et entendu tout ce que je ne voulais jamais voir et entendre. » Et elle dit d'ailleurs, sa mère maintenant, qu'elle ira se faire vacciner dès qu'elle pourra, pour être sûre de ne pas recontracter la maladie. C'est sa mère d'ailleurs qui l'avait forcée à aller à l'urgence une semaine après le début de la maladie parce que son état se détériorait rapidement. Elle dit d'ailleurs elle-même que les médecins parlent d'une miraculée dans son cas. Donc, à 21 ans, elle est passée très près de la mort. Deux mois dans le coma quand même à 21 ans.
Ouais.
Ça allait pas.
Et la troisième dose au Québec, ça arrive très bientôt, là.
Oui, et on sait que pour la population en général, la santé publique en avait reparlé la semaine dernière. C'est pas à l'horizon, là, à court et moyen terme, cette troisième dose. Par contre, pour les personnes beaucoup plus vulnérables, là, on arrive. Et on sait que le gouvernement du Québec avait annoncé, d'ici fin octobre, on arrivera avec des troisièmes doses dans, entre autres, les CHSLD. Et là, ça arrive. C'est dans la Capitale-Nationale qu'on va commencer. Entre autres, le CIUS, la Capitale-Nationale, qui annonçait que dans certains CHSLD, on ira de l'avant dès vendredi. C'est plutôt que prévu parce que, en quelque sorte, on profite là, d'une éclosion. Une éclosion dans ce secteur-là, on se bagarre. On a les doses. On n'attendra pas. Ces gens-là auront leur vaccin un petit peu plus tôt que prévu. C'est le vaccin Moderna qui a été sélectionné pour cette troisième dose parce que ça permet à tous d'avoir au moins deux doses identiques. Donc, on a fait le calcul d'avoir la marque qui permettait au plus de gens d'avoir des doses identiques. Les aînés de résidence privée de la région de Québec, eux, vont devoir attendre quelques jours de plus, le 20 octobre, pour pouvoir avoir leur dose. La région de la Chaudière-Appalaches va suivre ensuite. Et on va en profiter dans la majorité des cas pour donner le vaccin contre l'influenza en même temps. Alors,
ouais.
Ça facilite les opérations. Alors, ça va s'étendre à la grandeur du Québec par la suite.